Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dont la vie est un roman. Je m'appelle Eden et Yves Tenret et Gino Favotti m'ont demandé de faire mon autoportrait de transcodeur d'ondes sonores. Hélas, je suis un peu dur de la feuille. Quand j'étais adolescent, j'avais tellement tendance à répondre à côté de la plaque qu'on m'avait surnommé tympan. J'ai mis des années avant de me rendre compte que l'explication, comme quoi on m'avait attribué ce surnom parce que c'était le verlan de Pantin, à cause de ma démarche sautillante qui faisait résonner les boucles détachées de mes ranjos, n'était que celle que j'avais adoptée. À cette époque, quand je n'avais pas de carton ou de canette en métal pour jouer de la percussion, j'utilisais les coques de mes ranjos. Je passais beaucoup de temps à faire la fête, et quand j'écoutais des musiques, je les répliquais, ainsi apprenant un peu à mon insu. Est-ce que j'avais peur de me tromper? Quand on évolue hors norme, on ne craint aucun jugement. À moins que ce ne soit une certaine appétence à dévier qui explique cette fâcheuse tendance à dériver de plus en plus loin. Comme disait Pierre Desproges, la seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. Pour tout dire, en guise d'autoportrait, j'aurais préféré mettre au point un kit de lévitation électroacoustique. Sauf que je suis joueur et la contrainte d'employer des mots m'apporte la certitude de ne pas rester en zone de confort. Il y a quelques mois, je me suis retrouvé en difficulté face à la réalisation de mon carnet d'identité. Pour faire simple, j'ai un problème avec mon identité, je répugne à parler de moi. C'est sans doute pour des raisons similaires à celles qui font que j'aborde la perfection. Il y a 2 ans, j'ai fait un livret, « Quand sonne le glas », pour un des amis avec qui j'ai fondé le label Le Colibri Nécrophile en 1998. Il n'a pas conservé les interprétations que j'avais faites sur ses musiques. Du coup, les paroles sont restées assez confidentielles. Une des chansons dit clairement ma pensée à ce propos. La défaite dans le sang. Comment ne pas prendre en grippe la victoire face au sourire factice des vainqueurs, simulacre d'humanité dopé jusqu'aux yeux? Sacralisation globalisée des leurs. Comment ne pas prendre en grippe la victoire face à l'histoire réécrite par les vainqueurs, leur gloire illusoire de tricheurs éhontés, culte de la perversion narcissique. Comment ne pas prendre en horreur la réussite face à l'ego hypertrophié des arrivistes, dressés à écraser les autres sans la moindre pitié. Désir inextinguible de supériorité. Comment ne pas prendre en horreur la réussite face à l'exclusion des laissés pour compte, la part négligeable sacrifiée à l'intérêt collectif, passion débordante pour le spectacle. Refrain. J'ai la défaite dans le sang, j'aime être du côté des perdants, plutôt me saborder que ne pas saboter l'ordre établi, la sainte victoire des tout-puissants. Je préfère échouer pour être certain de ne pas être corrompu par ce système inhumain. C'est ce qui a fait de moi un erroriste, un de ces troublemakers, pire que les incendiaires, qui ne peuvent s'empêcher de dynamiter toutes les statues. Si la beauté romantique de la violence ne me repoussait pas autant, je me ferais volontiers sauter le caisson sur mon autoportrait. Juste afin de résoudre au mieux cette contradiction. Pourquoi se montrer si on n'attend aucune reconnaissance? J'ai trouvé que cette proposition était une bonne occasion de réussir à terminer mon carnet en intégrant quelques-uns de ces textes dans mon autoportrait. Je m'explique. En tant que carnet de poèmes, il apportait une lecture trop définie de mon identité. Par contre, glissé à l'intérieur de cet autoportrait, il pouvait permettre d'imaginer ce qui vit en moi et de quelle façon cette singularité affecte ma façon de transcoder les ondes sonores. Qui que tu sois qui m'entends, j'aimerais te tendre la main, pareil à un pont pour venir dans mon univers. Il est possible que ma façon de m'exprimer, voire de penser, te rende ce trajet difficile. Alors, je tiens à te rassurer, si tu prends mes paroles comme un flux et les laisses te baigner, il y a une chance que tu n'aies pas besoin de ce pont, que sa densité s'estompe et que tu sois déjà à mes côtés en train d'explorer les profondeurs de cet autoportrait. Si tu me fais confiance, si tu joues le jeu, il est même possible qu'à la fin, tu aies la sensation d'en être à son origine. Ce qui ne serait que vérité, vu que s'il existe, c'est pour toi. Là est l'abîme où est dissolue mon identité. Peut-être que je suis un cosmonaute dont la bouteille d'oxygène était remplie d'hélium. Peut-être que je suis un des égarés qui est resté perché en retour d'acide. Je n'arrive pas à rester concentré à l'intérieur d'un contenant. Je ne peux pas résister à l'envie d'aller voir à travers les yeux des autres. D'ailleurs, il ne me semble jamais vraiment autre. Quand j'ai plongé en moi pour y trouver cette curieuse perle nommée identité, je me suis retrouvé face à un miroir. Ce qu'il reflétait ressemblait à une momie. J'ai tiré sur une bandelette qui dépassait, mais à mesure que je la retirais, tour après tour, je ne rencontrais que le vide. Peut-être était-ce là mon identité secrète. Je suis celles et ceux que j'ai rencontrés depuis le commencement. Je suis celles et ceux que je rencontrerai avant la fin. Qu'est-ce qu'un fragment de miroir qui se recompose ? Pour en revenir à la musique, ce n'est pas surprenant que mon approche en soit plastique, à la façon de l'art brut de Jean Dubuffet. J'ai commencé à créer en utilisant le graphisme, puis l'écriture et la photographie, avant de m'intéresser à la musique et à la vidéo, surtout pour faciliter la diffusion de mes poèmes. Pendant trop d'années, j'ai été un mélomane discutant sans cesse de musique, jusqu'au jour où je n'ai plus supporté de parler de quelque chose que je ne pratiquais pas. Qu'est-ce que la danse d'une craie sur un tableau noir ? De même, l'importance du langage symbolique dans mon approche de l'art explique aisément l'importance que prend la conceptuelle dans mes œuvres sonores. Elles ont beau, le plus souvent, ne pas être construites, mais retranscrites intuitivement, c'est en tout cas dans ce langage qu'elles sont écrites. Quel que soit le médium utilisé, je m'intéresse surtout aux formes intuitives. Écriture automatique, musique improvisée, cut-up et mash-up, vidéo. Tout ce qui est en dehors du contrôle de la raison, à moins que ce ne soit tout ce qui est en dehors de mon contrôle, les dysfonctionnements, les systèmes aléatoires. Pourtant, il semblerait qu'à l'instar des surréalistes avec la libre association d'idées du cadavre exquis, j'ai développé une technique singulière, une sorte de cryptographie, utilisant divers procédés pour encoder rêve et réalité. Faisant de moi une sorte de modem. Je me rappelle, en seconde d'art plastique au lycée, la seconde fois où j'ai vraiment tenté de réaliser un autoportrait signifiant. Cela aurait pu être mon ultime portrait s'il n'avait pas été volé. En équilibre sur un pied, reposant sur un chapeau, percé de deux yeux, une silhouette nue, vue de dos, tenait dans chaque main une plume. Avant celui-ci, j'en avais réalisé un qui, même si le personnage semblait peu me ressembler, était criant de vérité à la façon dont il offrait son cœur dans sa main, avec glissé dans un phylactère « I've got a present for you, my heart ». Des paroles pas si éloignées de l'humour absurde de Glenn Baxter. Un troisième, au sourire éclatant, où mes jambes n'avaient pas de pieds et mes mains se transformaient en formes imaginaires. Sur la poitrine, une tache de sang. Ce stigmate annonçant entre chaque œuvre picturale la présence d'un lien, des éléments qui se répercutaient tout en évoluant, et se sont retrouvés dans ma façon holistique de nommer et agencer les morceaux, de concevoir les albums ou de les illustrer. Exemple, les CDR d'avant-goût de Nectar n'avaient pas de jaquette de devant, Nectar et Nectarine portaient juste un autocollant, Nectar 2 et 3 avaient une jaquette. La progression était prévue dès le départ, tisser une trame dans le temps. Dans l'espace, dans l'essence. De la première trace, comment, cherchant à définir mon identité par une griffe, je m'étais retrouvé engagé dans la quête de mon identité au sein du monde, à la dernière trace. Me réinventer sans cesse à travers de nouveaux projets afin de rester vivant ou trouver un sens à la vie. Un développement non linéaire, un voyage métaphorique, une narration globale à l'image de la vie. Des souvenirs, mais aussi des présages. Je ne dis pas art total, mais cela s'entend. Un autre est une peinture macrocosmique, l'autoportrait que j'ai offert en 2001 à celles et ceux que j'aimais, l'enfant de la joie, tenant un liseron dans sa main, un cryptogramme sur le cœur composé des quatre lettres A pointant vers le centre, avec autour quatre N formant une roue cosmique afin de symboliser l'amour et la haine réunis. Une variation du yin-yang. Le fond, représentant le cosmos réalisé avec de l'encre d'imprimante et du jaune d'œuf sur un scanner. Celui de l'antagonisme qui me résume bien représente une femme, un chien, et un enfant mort. On ne sait pas vraiment s'il est noir. On dirait qu'il n'a pas de couleur, à moins qu'il ne soit inachevé. C'était dans une autre vie, vraiment. Comment faire un autoportrait si l'on ne peut que rester à graviter autour du noyau? J'ai failli ne jamais terminer ce carnet, car plus j'avançais, plus cela devenait insupportable d'être le centre de l'attention. J'ai cette longue hésitation qui est restée gravée dans ma mémoire. Dans une conférence d'Alessandro Jodorowsky aux Utopiales de Nantes, il m'a demandé mon nom. Je n'ai pas su répondre. Le public a beaucoup rigolé. Est-ce que j'ai été trop perfectionniste? Est-ce que je déteste trop mentir? Laquelle de mes identités peut encore prétendre être la principale? Tympan, Alexis Kolesnikov, Arachnodaedalus, Morn, Edend, Robomera, Nietzschevo. Certainement pas mon identité civile. Quel est le nombril accroché dans la yourte qui me relie au cosmos? À ce ciel étoilé, ce champ élysé, ce réseau stellaire où mes amis disparaissent peu à peu, le paradoxe de la distance, contact parfois plus fort qu'une simple présence, peut-être car il est tributaire de la confiance, rencontre sans attente, inéluctablement, le paradoxe d'accepter ma mort, car sans mort il n'y a pas de vie possible, et de souffrir de la disparition des autres. L'irréversibilité de l'absence. J'ai vécu car j'ai rencontré, j'ai aimé. Même si souvent j'ai joué, j'ai agi avec intention et sans intention, l'un nourrissant l'autre et vice-versa. Peut-être celle d'offrir ce que l'on ne m'a pas offert, peut-être celle d'offrir ce que je ne pouvais trouver. La réponse, je l'ai approchée par le pied de nez de qui je suis, personne. Je suis ma propre voix, hors norme, Nietzschevo. Ce qui n'est pas peut devenir tous les possibles. Je le pressentais dès mes premiers poèmes, mort-né, comme dans la chanson de l'éternel espoir. Je ne mourrai jamais, car je n'ai jamais vécu. Pourtant, j'ai vécu. Alors, qui est mort? On ne peut rencontrer personne sans se connaître. Je suis le clown de la Commedia dell'arte, qui n'a fait qu'une année de seconde en section théâtre, car il était trop passionné pour réussir à rendre sa scénographie de huis clos. Je suis ce narrateur adepte de la parésia dont la voix monotone assoupit ta vigilance. Je suis aussi le timbre qui vient se superposer à une fréquence bien plus élevée, comme une écume, et qui, sans que tu puisses en être certaine ou certain, change ton identité, rencontre. Derrière le voile se façonne l'avenir. Il nous faudrait un décodeur. Je n'ai pas de biographie, normal, je ne suis pas un artiste encarté à la société du spectacle. J'aime trop la vie pour vouloir la coucher sur le papier. J'aime trop la vie pour vouloir la contrôler. J'aime trop la vie pour supporter les répétitions. Compositeur, cela doit vouloir dire tisser la trame que je devine derrière mon bandeau. Plus je me cherche, plus je me perds. J'apprends à m'inventer. Les rares fois où je m'approche de moi, c'est quand je me perds. Quand j'abandonne la raison pour être, hors du temps, nous sommes enfants. Alors larguons les amarres, ne cherchons pas à définir, mais manifestons cette joie disruptive. Cette lézarde qu'on entend dans ma musique. Certaines la trouvent détraquée. C'est une forme de rire, difficile de savoir si c'est de la joie ou de la peine. Je l'ai toujours ressenti comme l'espoir qui brille au plus profond du désespoir quand on n'a rien à perdre. Ta souffrance est légitime, c'est ce que je murmure. Tout ce qui me constitue porte l'affranchissement de la peur de la mort. Et en même temps, comme le définit si bien Gino Favotti, une hyperactivité débridée me caractérise comme si chaque instant pouvait être le dernier. J'en viens à me questionner sur la dépression. Quand j'étais prisonnier du cycle vicieux de nourrir mes œuvres de ma souffrance, sur la façon dont la dépression a été le moteur de mon art-thérapie expérimentale, une fuite en avant, avant d'apprendre à voler. La dépression n'est-elle pas que le fruit d'accorder trop d'importance à son sort et paradoxalement de ne savoir pas s'aimer assez? Que dire de l'approche psychologique qui prétend la soigner dans l'individu telle une maladie dans un corps alors qu'elle s'étend loin au dehors? Surtout si on prend en compte le taux de suicide en France dans les plus élevés d'Europe, surtout si on prend en compte le taux d'utilisation de médicaments psychoactifs, anxiolytiques et antidépresseurs dans les plus élevés du monde, et la consommation des autres drogues parmi les plus élevées de la galaxie. Information sujette à caution qui sert surtout à appuyer mon propos. On ne peut pas se voiler la face. La plupart des dépressions sont issues d'une maladie systémique. On ne peut qu'aspirer à la vie quand tout tente de nous refourguer la mort. Il y a peu de temps, j'expliquais pour répondre à mon psy que je ne prenais aucun cachet, que j'avais développé des techniques telles que l'ancrage à l'aide de repères ou la narration proche de l'auto-hypnose. Cela pouvait paraître un peu délirant d'un point de vue extérieur. Pourtant, c'est ma compréhension des pratiques que je mets en œuvre pour maintenir une stabilité suffisante pour rester en vie. Quand il m'a demandé si je pratiquais l'auto-hypnose, je lui ai rappelé le parallélisme entre l'improvisation musicale et la méditation, afin de montrer le parallélisme entre l'auto-hypnose et la narration, tout en précisant l'importance de la jonction, projection, perception, au lieu d'une simple projection ou d'une simple perception. Est-ce que le charabia n'est pas la conséquence d'un manque de contexte ?
Prions pour nos frères persécutés de l'Église du silence. L'Église du silence. L'Église du silence. L'Église du silence.
Le silence aurait pu me tomber dessus comme au crépuscule la nuit, mais je suis trop indiscipliné pour me taire. Et j'ai le tempérament joueur de ceux qui ne veulent plus être prisonniers de la peur. Une fois encore, je reprends ma plume, je lisse mes ailes avant de m'envoler par la pensée au pays des rêves éveillés. Être fragmenté, mélange d'impression et de conviction, comment se raconter sans raconter le monde dans lequel on vit ? Cette liberté que l'on désire mais que nous refuse le conditionnement, les traumas ou la peur. Ainsi j'expliquais comment je me façonnais pour échapper au déterminisme et à la binarité. La croyance que le mal ne soit pas autant présent que le bien en chacun véhiculé par l'Église, c'est ce mensonge qui est à l'origine du simulacre où nous vivons. Pour moi, les deux extrêmes sont présents et c'est le choix, l'exercice du libre arbitre qui permet de s'orienter. C'est la liberté d'expérimenter qui nous permet d'apprendre. En politique, le système joue le même rôle, s'efforçant de faire de chacun de nous un seul individu qui se confond avec son matricule, alors que nous sommes pluriels, alors qu'à chaque véritable relation, un être différent s'éveille. Multiple est souvent contradictoire, car de même que le bien et le mal sont présents, des forces s'opposent en nous. Par exemple, la résistance inconsciente est l'empire de la raison, sans compter l'écart entre ce que l'on souhaite et ce que l'on obtient. « This is what you want, this is what you get », comme l'a si bien chanté John Lydon. Ce que l'on rêve ou fantasme face aux résultats de nos intentions, dans une réalité qui lague terriblement, qui frise même parfois. La preuve, j'ai perdu le fil. Un blue screen passe. Ce qui suit ne semble pas relié à ce qui a précédé, qu'importe. De même que l'hallucination existe pleinement pour le sujet immergé dans son univers, quelle qu'en soit la qualité de sa perception et quelle qu'en soit son origine. De même, ces univers existent et pour intervenir dessus, il appartient de ne pas les nier ou les reléguer à rien. Ainsi, je me façonnais, non pas comme un individu unique, mais plus comme un écosystème de personnalités, cohabitant et s'entraidant. Une personnalité commune, on retrouve un peu des archétypes de Carl Gustav Jung dans cette configuration. L'anima et l'animus sont là, ainsi que l'enfant et la narrateur. Chaque personnalité se répartissant les tâches et les responsabilités, de sorte à ce que le psychisme puisse absorber la masse d'activités générées par l'hyperactivité. Sans perdre pied, et bien ainsi, par cycle, des morts, suivi de reconfigurations. À l'origine, c'était très visible, actuellement c'est devenu anodin. Les psychédéliques ne sont que des accélérateurs, la matrice est en soi, ADN. Je suis le produit de cette nuit qui s'est abattue sur le monde au passage de millénaires. Nous croyions vivre un jour nouveau, mais tout n'était que projection de nos rêves sur la dure réalité d'une humanité maintenue dans un sommeil éternel. La singularité comme réponse à la saturation Internet. L'essentialité comme réponse à la superficialité. Et peu à peu, les liens se sont défaits. Quand il y a assez d'hélium, le ballon largue ses amarres. Ceci n'étant qu'une séquelle de l'expérience psychédélique. Ce qui n'avait duré qu'une période très brève afin de l'assimiler, mon cerveau l'a recréé à l'échelle d'une vie. Même les yeux fermés, Cassandre sait. Elle ressent et se questionne sur le libre arbitre. Croyant l'avoir atteint en se générant, mais se demandant si ce n'est pas qu'un biais, qui au contraire l'enferme encore plus dans une destinée, un programme. Je dirais que la réponse se cache dans la narration. Comme je l'ai expliqué en détail à mon psy, l'erreur serait de vouloir voir une projection ou une perception là où en réalité il y a convergence. Nous naviguons toujours dans l'océan des énergies et faire de l'ingénierie ne semble pas changer en apparence l'expérience de la vie. Pourtant, la connaissance pratique des mécanismes permet de les moduler et ainsi de s'approcher d'une véritable liberté. De même, la connaissance de la pluralité vivante en soi permet de puiser davantage sur certains de ces fragments du code source pour modifier le résultat. Ceci dit, j'ai peur que, comme toujours, la théorisation soit truffée d'erreurs involontaires et volontaires pour faire bonne mesure. Si je me permets de disséquer devant toi qui je suis, c'est plus pour permettre une perception qu'une compréhension intellectuelle des procédés qui œuvrent en moi. Qui par exemple me permettent de me soucier davantage que d'autres d'un bien commun, de me mettre en retrait quand cela est nécessaire ou de rouler pour un projet sans que mon ego ne l'affecte. Quand l'autre est bien plus une variante de soi, cela facilite l'écoute réelle. Cela rend aussi tout extrêmement compliqué dès qu'il s'agit de faire preuve d'une certaine individualité. Ainsi, se présenter peut paraître impossible, insensé ou tout au moins insignifiant. Pourtant, j'aime les défis, alors je me risque à décrire les faits qui m'ont conduit de l'unité à l'infini, ou l'indéfini. Il ne faudrait pas croire que parce que je prononce ces paroles, je n'ai pas un regard particulièrement critique sur leur sens. Ce que je veux dire, c'est peut-être une forme de délire volontaire. Je ne suis pas certain de me reconnaître dedans, c'est troublant. Il y a plus de chances que ce soit juste quand l'absence de la contrainte, de la cohérence, les choses essentielles montent à la surface. J'ai passé mon enfance à me souvenir. À 7 ans, je rédigeais mon premier testament, ne pouvant supporter un monde saturé de souffrances et de mensonges. Ma perception singulière ne m'aidait en guère, je voyais en chacun comme dans des livres ouverts, ne trouvant réconfort que dans la nature et la lecture. À 7 ans, j'ai écrit ma théorie du multivers fonctionnant sur 3 axes, un axe du temps, un axe des formes, et ce qui explique sans doute pourquoi cela fut aussi satisfaisant de commencer à 9 ans à dévorer tout le rayon science-fiction de la bibliothèque municipale de Dole. À 15 ans, je faisais ma première tentative de suicide réussite. À 17 ans, je m'échappais d'HP et je rejoins le lycée expérimental de Saint-Nazaire. À 19 ans, ma fille naissait. À 22 ans, après la fin du monde, je traversais l'avortement de l'ego. À 30 ans, je parvenais à me reconstruire suffisamment pour faire des choix pour moi. À 36 ans, je cessais de défendre l'équilibre entre le bien et le mal, reconnaissant que c'était une façon de me protéger, et essayais de développer une orientation plus authentique. À 42 ans, j'essaie de percer l'abcès de l'identité. Je n'ai jamais pensé vivre plus longtemps que 17 ans. Est-ce que je suis une anomalie? J'ai trouvé des excuses pour me maintenir en vie. Bien que ce soit insensé et qu'à part éviter la souffrance du départ, aucune raison ne le justifiait. Heureusement, la responsabilité liée à la conscience de faire partie d'un tout m'a aussi aidé. Si une anomalie disparaît, d'autres pourraient être tentés de baisser les bras. Alors qu'il y a cruellement besoin de ces anomalies, ces grains de sable, dans le mécanisme de la machine, comme disait Frank Herbert dans sa nouvelle sur le terrorisme extraordinaire. Et tout ce que j'ai créé porte l'empreinte de ce parcours, au point que le sabordage intentionnel est souvent clairement visible. Le label Colibri Nécrophile, sous sa forme collective locale, a implosé avant d'atteindre 3 années pour devenir un net label dévolu principalement à la diffusion de mes projets ou collaborations, ou des projets de mes collaborateurs les plus proches, Hardleg et Kaoman, quand j'étais à Saint-Nazaire, et désormais Studio 112. Il a fallu attendre 2012 pour que, sur l'impulsion de Charles Ier, j'y accueille occasionnellement des albums d'artistes exogènes, Un, Berthelot, Mescalibur, Trust in None. Autre exemple, pour la compilation Nectar, chaque volume a failli ne jamais avoir lieu, mais prenait sa forme singulière en partie de cette lutte dantesque contre les pulsions de destruction. L'essence de cette création est l'idée utopique et holistique qu'en se basant sur un panel assez large de diversité, on trouve un équilibre et on se transcende. Cela fait vaguement penser au schéma d'un récepteur et d'un émetteur. À bien y regarder, on dirait une transposition à une échelle plus vaste de la structure interne qui me régit. Est-ce un catalyseur, un amplificateur ou une chambre d'écho? Tout ce qui est nié, réduit au silence par des autorités, que ce soit des experts ou le pouvoir dominant, y a sa place. D'une certaine façon, donner la parole aux opprimés, aux minorités et aux morts, en particulier ceux qui ont été assassinés par la société. Subversif, la provocation n'a existé que comme paravent, art bouffon au service de l'émancipation des êtres. C'est pour cette raison que je me reconnais dans l'art des fous. L'art brut, en particulier le fait qu'il n'y ait pas un objectif artistique dans sa mise à jour. Mais quelle que soit ma singularité, elle n'a rien d'unique, rien d'isolé. Elle s'est nourrie de l'énergie d'un réseau de rêveuses et rêveurs et en nourrit d'autres. Ce qui fait beaucoup penser à Phi Temple of Psychic Youth, fondé par Psychic TV. C'est aussi une des raisons pour laquelle le fait d'avoir un public ou une reconnaissance médiatique telle que pratiquée dans la société du spectacle est insignifiant. Et il n'y a que des artistes à l'ego boursouflé pour être motivés pour s'auto-répliquer à travers leurs œuvres. Le prosélytisme est un aveuglement, cela part de l'idée que l'autre n'a pas en soi ce qu'on essaie de lui transmettre, qu'il ne serait pas capable de l'apprendre par sa propre expérience ou de le créer lui-même. A l'inverse, mon approche de la création est que chacun porte en soi des germes, et le plus grand risque serait de se détourner de sa singularité pour une simple duplication. Le catoblepon, le motif stérile du cycle, stagnation. À l'opposé, la synthèse permet de développer cette singularité en la confrontant à d'autres univers. La spirale, le motif fertile des dimensions, évolution. Entre la technologie et la nature, quelle est ma source d'inspiration? Pour tout dire, la modélisation du multivers, suivie de quelques années plus tard par celle du champ des dynamiques, attraction, émergence, etc., proche des notions de background de la gestalt-thérapie, sont des éléments fondamentaux pour pouvoir assimiler mon propos. Densité, qui n'a jamais rêvé de respirer. Quand je commence à discourir, ma voix monocorde plonge l'auditeur dans une léthargie, puis il est submergé par les concepts qui semblent n'avoir ni queue ni tête, semblant tout droit sortis d'une logorée insensée. Mais si l'emprise de sa raison se relâche, qu'il abandonne le système analytique pour une perception plus intuitive, il pressent la signification cachée derrière mes paroles. Et si j'aborde des sujets tels que le transcode, une façon de détourner les flux d'informations pour lire au travers, en se servant de la décomposition du langage comme support divinatoire, ça bascule rapidement vers une expérience de type Matrix. La surface de la réalité vacille, les rouages affleurent et le doute s'immisce dans toutes ses certitudes. Si je continue, elle ou il se retrouve comme un écorché vif dans un monde écorché vif avec un furieux besoin de respirer. Une fois que la révélation est passée, a-t-on besoin de se noyer dans l'étude ? N'est-il pas préférable d'en retenir la nécessité d'une juste mesure ? La recherche de la connaissance n'étant dès lors pas un objectif, juste un des processus qui s'équilibre avec d'autres, tels que le jardinage, la mise en œuvre de nos capacités manuelles n'ayant pas plus ou moins d'importance que nos capacités intellectuelles. Sur une échelle infinie, il est préférable d'éviter d'essayer d'atteindre son sommet, mais plutôt se déplacer au gré de nos besoins. De la même façon qu'au sein d'une connaissance infinie, on a juste besoin du balayage du faisceau de notre conscience. De la même façon encore, la donnée n'a pas plus d'importance que la didactique, pareil au rôle des neurones et des synapses. J'aime le propos du petit livre « Lire au cabinet » d'Henry Miller, quand il dénonce à quel point un intellectualisme déconnecté de la pratique peut être toxique. Comme ces personnes qui se contraindraient à une discipline au lieu que celle-ci soit la forme générée par leur être à travers leur mode de vie. Une pratique sans conscience est autant stérile que cette conscience sans expérience. Au-delà de la critique de la destruction des liens, des faux besoins, des faux semblants, de tout ce qui fait de cette société un monde de mort, ce qui me semble le plus nous éloigner de la vie est cette quête folle du plus, de l'accumulation et de l'excès. Et la planète a beau être vaste, les écosystèmes font que l'on ne peut pas juste faire scission. Il me semble que cela nous ramène à l'éducation proposée par les pédagogies actives. Créer un environnement propice à l'apprentissage et au développement d'une intelligence sensible. Cela veut dire déconstruire le rouleau compresseur des valeurs destructives du capitalisme et de tous les ismes. Et c'est ce qui est déjà à l'œuvre dans cette recherche de sens et de conscience. Mais cela ne peut pas se faire si des maîtres à penser viennent détruire ce terreau fertile et drainent toute l'énergie. L'instrumentalisation politique fait de même. Surtout, je ne crois pas à une intervention divine d'une figure tutélaire, d'un État ou d'un contre-gouvernement. Je prône l'intelligence, l'esprit critique, l'empathie, l'amour, qui permettent le retrait de l'ego, c'est-à-dire le partage qui l'emporte sur la propriété. Je prône l'humour, le jeu, tout ce qui empêche les certitudes, la stratification, mais permet de maintenir la pensée en mouvement. Le grand jeu a écrit le casse-dogme et je me reconnais en cette entité. Quelque part, j'en suis peut-être un lointain descendant, un écho devenu flou avec le temps. La plaque sensible, trop longtemps exposée. On ne peut sauver personne et personne ne viendra nous sauver. Le monde sera sauvé le jour où nous aurons enfin décidé de nous sauver. Le prérequis étant de savoir qui l'on est, d'avoir atteint une congruence entre l'esprit, le cœur et le corps, éventuellement être aussi capable d'user de la libre focalisation pour se voir d'un œil extérieur. Est-ce que cela semble si utopique ? Beaucoup d'idées semblables à ces propos se trouvent sur l'île d'Aldous Huxley. D'ailleurs, composer me semble un rien artificiel. Le plus souvent, j'ai composté, déconstruire pour construire, comme les paroles de William Burroughs sur Hummingbird Anthem dans le premier album de Gestalt Orchestra. J'ai préparé un environnement où ont pu émerger, se développer d'autres singularités. C'est peut-être un dessin fractal ? Je fais pousser des arbres à fraises, comme dans le second livre de James Morrow. D'ailleurs, la musique n'a jamais été strictement musique dans mon univers. Elle n'est pas dissociée des autres arts. La vie, la littérature, le cinéma, le graphisme, la photographie, la sculpture, la danse, les actions, etc. Les auteurs que j'apprécie le plus sont ceux qui écrivent de la fiction spéculative, qui recherchent des solutions pour bien être en ce monde en explorant d'autres modèles. Je me sens proche de Philip K. Dick par sa façon de construire son univers en inventant des connaissances, en se basant par exemple sur l'Encyclopédie Britannica plus qu'en les étudiant stricto sensus. Mais ce ne sont pas directement des influences, c'est plus leurs univers qui s'étendent dans mon univers. J'établis des ponts entre les œuvres, les cultures d'autres pays, d'autres époques, pour les connaître de l'intérieur, apprendre la vie. C'est cette exploration du monde, de ses rêves et de ses habitants qui façonne mon œuvre. C'est entre autres pour ça que je dis que je suis le fruit de mes rencontres en introduction. Quelle différence entre l'appropriation culturelle et le partage sans lequel toutes les cultures seraient mortes. Le vide parle. Quand on creuse, ce sont les marches que l'on découvre, le réseau micellaire où se cachent les pionniers qui ne veulent pas être stérilisés par la notoriété. Je n'ai rien d'un occultiste, bien au contraire. Je suis opposé à l'idée de l'initiation par l'homme. Cacher des savoirs et des connaissances est juste la meilleure façon de produire les cancers qui rongent la société. Le bénéfice de limiter les risques conséquents à certains pouvoirs est surtout une façon pour ceux qui le prônent de conserver le pouvoir et de manipuler leurs ouailles. Je pense que si on n'a pas espoir en l'humain, si l'on ne peut pas faire confiance aux individus qui composent la population pour parvenir à faire des choix justes, dans ce cas, ce n'est pas la peine de vivre. Je pourrais livrer tous mes codes, mes recettes, mes techniques, énumérer mes inventions. Je ne ferais que donner des outils pour disséquer mes œuvres. Pourquoi faire leur autopsie? Ne mérite-t-elle pas de rester en vie? Si je voulais faire une Nurse with a Wound list, établir la liste de mes influences, même si certaines ont eu plus d'impact car elles m'ont accompagné durant de longues périodes de vie, pour chaque groupe il y aurait une histoire à raconter, et même en ne gardant que l'essentiel, cela tiendrait difficilement dans un livre. Pour le remettre en situation, pour cette émission dont le texte comporte près de 9000 mots, je n'aurais pas pu citer tous les noms de musique que j'écoute sur Last FM, car il y en a plus de 9000. L'été dernier, j'ai décidé de discrètement présenter mes 30 projets sonores, après avoir constaté avec la compilation The World is Over que la moitié sont encore actifs. Sauf que c'était avant tout pour les réunir, donner un accès à une compréhension d'ensemble, et pas pour les associer à mon identité. Ce qui peut se comprendre, genre, j'ai participé à 30 projets, j'ai créé 171 albums, 404 vidéos art clips, je me passerai bien de ces nombres gênants qui dressent une barrière à l'échange. Ce n'est qu'une poignée de poussière qui me colle une étiquette d'autre, alors que si tu cherches, si tu explores, je ne suis pas si loin de toi. J'ai juste peut-être persévéré trop longtemps avant de passer à autre chose. Et là est l'autre singularité, mon absence de mémoire personnelle. Ce que j'écris n'existe plus la semaine suivante. Si c'est une musique, je peux toujours l'écouter, mais de toute façon, elle n'est pas associée à moi. Je n'ai pas de passé. Donc d'un côté, cela me laisse la joie de l'éternel débutant. De l'autre côté, c'est la tabula rasa devant moi. Même si avec le temps, comme ce requin qui se fait aussi petit que le poisson pilote d'une nouvelle de Déchiffrer la trame de Jean-Claude Dunayac, je conserve quelques techniques, quelques connaissances pratiques. Tout ce qui est trop intense disparaît encore plus vite. Je ne pourrai jamais mémoriser un orgasme. C'est un peu l'origine de mon personnage de Nietzschevo. Je ne suis rien. Cependant, quelle liberté. D'un point de vue sonore, je reviens à la lézarde, la fissure, cette faille par où s'engouffre l'impensable pour se déverser sur ce monde. La présence de cette fissure se traduit principalement par l'invasion de fréquences inusitées et de formes atypiques. On peut rattacher ma musique à de nombreux styles, mais pour aucun, à part le hors norme, des puristes n'accepteraient ce rapprochement. D'un point de vue économique, c'est la culture libre. Hélas, une œuvre gratuite en 2021 est vue principalement comme une œuvre sans valeur, donc inintéressante, ou sinon comme un produit d'appel, comprendre le tremplin avant de percer. Au moins, quand le logiciel libre n'avait pas encore été phagocyté par la ruée vers les applis de la même façon que Bandcamp a drainé la majorité des autoproductions en poussant les musiciens à basculer dans le « Pay what you want, zero include » pour mettre un premier pas dans la commercialisation de leurs œuvres, le public comprenait que renoncer à ce qu'elles soient des marchandises est un choix politique. Montrer ce que serait un monde où chacune et chacun offre le meilleur de lui-même. Qui se souvient qu'Internet a changé la donne en permettant de répliquer une œuvre virtuelle sans surcoût à l'infini? Dans la musique libre, il y a une plus grande tolérance pour ce qui est vraiment libre dans la forme. Mais cela ne veut pas dire que l'expérimentation musicale y a une place si importante. Choisir le partage plutôt que la commercialisation ne résout pas entièrement les problèmes liés à la diffusion. Mais au moins, dans cette culture, nous sommes moins dénaturés, on ne cherche pas autant à plaire, mais plus à être, nous sommes moins standardisés, on n'est pas autant assujettis à respecter les normes, nous sommes moins des compétiteurs, on ne fait pas autant la course à la virtuosité technique, on n'est pas obligé de se doper pour jouer. Les médias mainstream ne nous pousseront jamais à vendre notre personne, et celles et ceux qui nous écoutent, quel que soit leur nombre, ne nous consomment pas. Dans l'Internet actuel, pas éloigné d'un épisode de Black Mirror, la notoriété vaut son pesant d'or. dans le monde actuel, pas éloigné d'un cauchemar dystopique, un partage humain d'égal à égal, hors du système économique, vaut tout l'or du monde. Et c'est une éducation qui m'a pris des années avant de réussir à ne pas me soucier outre mesure de la diffusion de mes musiques. C'était d'autant plus difficile que dans mon approche d'art total, tout est conçu pour faciliter cette diffusion, mes musiques étant un prétexte à la diffusion de mes poèmes et mes vidéos art clips un prétexte à la diffusion de mes musiques. Bref, je ne suis pas un musicien, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas poète, pas journaliste, ni essayiste, je ne suis rien, leitmotiv de Nietzschevo. Le rien dans son extrême est plus proche du tout, mais qu'importe, ce qui compte c'est de ne tenir dans aucune case. Your music is never going to fit into any easy box, no matter what shape. It's truly individual, comme l'a si bien cerné Peter Hope. Et même si je ne suis rien, l'œuvre dont je suis le vecteur est. Elle me semble transcendante. Elle peut difficilement laisser l'auditeur indifférent. Je pourrais prétendre m'appeler hors norme, pourtant me définir, c'est concourir à m'emprisonner, à me limiter, à me stratifier. Je préfère n'avoir pas existé, m'être effacé. Je suis fou. Je ne dis pas que la folie nous libère forcément, mais au moins elle brise la cage de la raison. Ouvrir ses yeux pour de vrai, éveiller tous nos sens, inventer un avenir qui soit désirable au lieu de ressasser les chimères de nos dépendances, écrire, exprimer à chacun le fond de ses pensées sans phare. Plusieurs sources sonores se mêlent, les signaux se brouillent. Il se produit une sorte de pareille idola. C'est le cerveau de l'auditeur qui sélectionne ce qui est signifiant dans cet ensemble. Je pense que c'est le principe qui met en avant l'importance de la tête de lecture et qui préfigure le monde d'après, qui aurait pu être et sera peut-être. Par exemple, comme il est devenu impossible d'écouter toutes les musiques, l'auditeur est donc poussé à choisir, à être capable de s'orienter dans ce quasi-infini. Idéalement, ses goûts se nourrissant de sa pratique. Hélas, une fois encore, le confort empêche la vie, nous rendant dépendants au lieu de nous libérer, comme cela se fait en politique, pour garder le contrôle en poussant le citoyen à déléguer son pouvoir. L'auditeur est poussé à déléguer la sélection des musiques qu'il écoute à l'algorithme d'une IA, ce qui empêche la formation d'un être autonome. J'ai comme une folle envie de faire des confettis dans mon esprit et de jeter les clés à la foule, imaginant leur mine déconfite, quand ils comprendront que ces marques ne sont pas des serrures, mais les traces de morsures que m'a laissé la souffrance d'avoir vécu en ce monde insensé. Peut-être se réduire à néant pour que le tableau prenne vie. Cette semaine, le psychologue qui me suit m'a demandé si je n'avais pas peur de la mort. Je lui ai répondu « Non, en fait, ce serait une délivrance. » Internet nous pousse sans cesse à creuser notre identité pour nous représenter, plutôt concevoir notre masque pour nous convertir en avatar. Il y a des années, j'ai cherché à me présenter le plus simplement possible. Cela donnait « nature, enfant de la lune, fonction, rêveur de réalité ». Donc, en réalisant cet autoportrait, j'imagine que le pouvoir d'évocation des mots pourrait t'amener à traverser la bulle de ma sphère personnelle pour entrer en mon intimité. Et je me demande, quel monde tu découvrirais? Serait-ce un jardin, source d'émerveillement, où chaque chose que tu rencontrerais serait différente de celle que tu connais? Elles auraient parfois des noms étranges, composés, comme l'étoile spirale de mon roman « L'infini ». Il y pousserait des références obscures, sur les arbres des ébauches d'idées en bourgeons à profusion. Penses-tu qu'il serait abandonné, ou crois-tu vraiment que tu pourrais m'y croiser? Tu deviendrais chat, jouant avec une pelote de laine, et à la fin tu découvrirais que la forme ne cachait qu'un fil de laine. Je pense que la seule personne que tu pourrais y croiser serait toi-même, il y a quelques minutes, ou dans quelques années. Perdu. Après avoir absorbé ce virus qui efface l'identité en activant la perception de la multiplicité, trouver cet état particulier où l'on peut créer des lieux imaginaires qui se prolongent dans le réel, où chacune et chacun peut vivre sans tout le fatras de gris-gris, assurance et autres colifichets que leur accrochent ceux qui ont peur de la mort, ceux qui vouent un culte à la propriété et au pouvoir. Comment la culture pourrait être libre tant qu'on étouffe sous le poids de siècles d'aveuglement? Idolâtrer le passé, ce n'est pas en tirer l'enseignement, c'est au contraire perpétrer ses erreurs. Je ne suis pas ni ceci ni cela, mais ce que je crée. Quelle qu'en soit la surface extérieure, elle ne ressemble pas à celle que créent celles et ceux qui font semblant d'être vivants quand ils ne pensent qu'à leur profit. À un point fondamental, mon approche de la musique est liée à l'improvisation. Même si en parallèle j'explorais la musique assistée par ordinateur, tout en gardant l'approche « do it yourself », exemple, saturer un disque dur pour entraîner le dysfonctionnement d'un logiciel, retirer une carte SD pour que le son de la piste soit recréé par la mémoire tampon, etc. Ou même en vidéo, le soir où j'ai laissé un cinémix de Nanook l'Eskimo en calcul pour me réveiller le matin avec un montage autogène, « Nanook Experiment », curieux mélange entre l'intuition et ce goût pour le hacking en droite ligne de ma vocation de troublemaker. Fondamental car c'est en quoi je ne peux être absorbé par la société du spectacle. Ma musique n'a pas de forme, elle est une essence, celle de mes transes. À l'image de mes poèmes qui ne sont que les vestiges d'instants de vie, mes morceaux ne sont que des coquillages que je ramène de mes voyages. Pour moi, la transe est issue de la rencontre du flux sonore et du flux mental. L'un et l'autre, s'ils sont très proches, s'influencent. Des micro-variations du son permettent de moduler le flux mental. Le jeu des fréquences permet une stimulation psychoactive similaire à la Dream Machine ou au logiciel d'ondes vibratoires. La transe dirigée permet de rêver éveillé. C'est aussi une démystification de tous les artifices des spiritualités, quelles qu'elles soient. L'improvisation, dans ce cas, est une forme de méditation facilitée par le support sonore. Je la vois comme un portail ouvert dans le temps présent où tout peut se manifester. Mais cela n'a rien de religieux, c'est au contraire de la simple mécanique, l'utilisation des mécanismes du corps et de l'esprit. Cela pour bien rappeler que je suis autodidacte et que ce soit les enseignements des académismes ou les maîtres à penser et autres gourous, quelles que soient leurs intentions, ce sont autant de dogmes à subvertir. Autant la posture de l'apprenant, pouvoir apprendre de toute chose est un élément clé du développement de son être, autant la dévotion exclusive à une quelconque autorité semblable au fétichisme me semble conduire à l'annihilation de l'être, au fanatisme. On ne vit plus se contentant d'adhérer à ce qui correspond à la doctrine et excluant ce qui en diffère. On ne peut pas courir sur les murs qui ceinturent l'asile où nous nous sommes tous enfermés sans donner l'impression d'être constamment sur le point de tomber. Si on ne risque rien, si on ne se met pas en danger, on cesse de vivre. Si le confort c'est la mort, l'ascèse l'est aussi. Je suis pluriel, on est d'accord, alors cela explique sans doute pourquoi j'anime autant de projets différents. À moins que ce ne soit la musique qui est plurielle. Je pense que ce sont des étapes, chaque projet étant caractérisé par un ensemble de techniques particulières. Par exemple, pour Orestes, cela a été l'étude du remplacement du rythme par la pulsation, et les fréquences des infrabasses et des ultrasons dont l'écoute est moins entravée par le solfège. Pour en revenir à la transe, une technique d'improvisation avec un effet délai permet de se décaler dans le temps. C'est un peu compliqué. Pour faire simple, disons que le son originel est « ha ». Suivi de X écho, A, 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 A. Avec le délai, on renforce un des échos à chaque cycle afin qu'il devienne le son originel. Cela permet de glisser dans le temps. Le turntablisme emprunte aussi à la musique sérielle. Quand j'utilise un pare-soleil ou un élastique sur une platine vinyle pour obtenir une boucle aléatoire, je fais une émulation de l'effet de la musique sérielle. Cela crée des micro-variations similaires à celles produites par l'écoute répétitive. Quand l'empreinte écho dans le cerveau se superpose au son répété le modulant. Est-ce que les ondes sondent à l'instar du sonar des chauves-souris ? Qu'est-ce qui fait qu'une onde sonore devient musique ? À l'orée du millénaire, je me suis essayé à définir la musique comme l'art de véhiculer des émotions. Ce faisant, je voulais surtout me débarrasser de ce carcan étouffant qu'est le solfège. La pratique de l'improvisation brutiste m'a amené à formuler la théorie de l'erreur. Il suffit qu'une erreur soit répétée pour qu'elle ne soit plus une erreur. En réalité, une fois encore, il n'y a pas une musique, mais des musiques. Comment passer sous silence celle qui est sans doute une des origines les plus lointaines de la musique, l'amour, ce bon vieux chant nuptial, trouver quelqu'un qui vibre au diapason de son âme, guère étonnant que la musique soit devenue quelques décennies durant une façon de définir son identité. Pourquoi a-t-on besoin d'une identité si ce n'est pour aller à la rencontre des autres ? J'ai l'impression que ce que nous cherchons, qu'on se l'avoue ou non, c'est un père. On cherche à entendre l'écho qui résonne, comme si cela pouvait nous délivrer de notre solitude. La fuite en dehors au lieu de chercher en nous, croire qu'ailleurs est meilleur, et puis l'illusion, projeter cette peur d'être seul partout autour de soi. Rien, il ne reste rien, tout est couvert par notre émission. Et à la fin, on note le degré d'adéquation du flux à notre projection. Conclusion. Il était une fois un enfant qui voulait bien faire un autoportrait. Mais chacune de ses facettes était reliée à une autre, et les montrer toutes n'auraient pas ressemblé à la vision que pouvait en avoir un interlocuteur. Tout est bien plus proche du rien. Il suffisait de passer à la radio, pas besoin de rayon X, juste brosser un portrait avec des mots. Celui d'un des rejetons de Dada, Otto. L'autodidacte, l'automate qui anime mon personnage. Si doux que l'on regarde, il n'y a que des personnages. Plus le portrait avancera, plus il ne restera qu'une page blanche ou noire ou encore de toutes les couleurs. Si c'est toi que j'ai invité à collecter chaque touche pour qu'à la fin cela soit un clavier, une sorte de sampleur avec lequel tu puisses composer ta narration, mêler rêve et réalité, abolir les frontières comme à l'orée du sommeil en écriture automatique, c'est que j'essayais peut-être juste de te demander de m'accepter tel que je suis, indéfini, de choisir l'image que tu veux de moi, tout en gardant à l'esprit que ce n'est qu'une image. L'exercice de composition le plus fascinant auquel j'ai assisté était sous LSD. Exprime très précisément pourquoi je me reconnais plus dans la forme d'un instrument. S'il me fallait choisir, je dirais que je suis médium plutôt que créateur, filtre modulateur plutôt que générateur. Et je laisserais de côté la question de la source. Je tenais un archet et un violon et j'étais incapable de les empêcher de jouer. Je suis sorti du salon pour aller dans la cuisine en espérant que m'éloigner de la source relâcherait son emprise. Mais impossible. L'archet se collait de nouveau aux cordes et reprenait la mélodie à mesure que je revenais dans le salon. Mais le plus surprenant était la nature de la musique présentée. Des simples bribes répétées, jusqu'à ce qu'un motif mélodique complet et complexe se forme puis se décompose. Il est difficile d'échapper à la dimension orgasmique de l'improvisation musicale. Le parallélisme avec la vie, entre la naissance et la mort, entre composition et décomposition, négantropie et entropie, l'accomplissement de soi entre les deux, création humaine ou pas, en témoigne le tracé plat de celles et ceux qui acceptent leur chaîne sans les changer en cordes. J'ai un petit poème extrait des micro-contes d'À travers contes qui est essentiel pour creuser cette métaphore. Le danseur cosmique. À l'aube de sa vie, j'ai vu les mains de Sun endormies, crispées par la souffrance sur 1000 cordes tendues à son cou. Au cours de sa vie, j'ai vu les mouvements du corps torturé de Sin se muer en une danse désarticulée. Au crépuscule de sa vie, j'ai vu les mains de San éveillées caresser les cordes pour jouer l'air qui le faisait danser. Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Je viens d'échouer et de réussir à esquisser une sorte d'autoportrait cybernétique paradoxal qui complète les révélations du film autobiographique Ordali Found Footage. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cela aura pu susciter en toi l'envie de plonger dans l'abîme pour te découvrir.